Elle est reconnue par Forbes comme étant la plus grande réseauteuse du monde. Et elle dit « Je déteste le réseautage ».
Que c'est les rapports qui rendent les hommes plus intelligents, plus des génies, et du coup qui deviennent riches. Enfin, ça me... ça m'irrite comme notion. Je le trouve lourd à lire, je le trouve lent à lire, je le trouve désagréable, et du coup, j'ai rien appris. Hello et bienvenue dans la bibliothèque de l'entrepreneur.
Bonjour à tous.
Avec Nicolas, chaque mois, on va étudier un livre pour entrepreneurs qu'on a précédemment lu ou pas. on se remet au goût du jour. Et puis, on va venir vous en parler dans cette émission. Comme la dernière fois, en fait, j'ai lu un livre qu'il n'a pas lu. Il a lu un livre que je n'ai pas lu. Et bien, c'est parti.
Exactement. Donc, les deux livres du jour. Donc, moi, j'ai lu ce livre, « Comment vendre quand on est introverti, traité pratique à l'usage des timides ». C'est un livre de Matthew Pollard et Derek Lewis.
Pour ma part, un grand classique, Réfléchissez et devenez riche. Think and Grow Rich de Napoléon Hill. Ben c'est parti Nicolas, peux-tu me parler du livre que tu as étudié cette fois-ci ?
Oui, alors donc ce livre, Comment vendre quand on est introverti, traité pratique à l'usage des timides. C'est un livre qui m'a attiré parce que y a beaucoup de méthodes sur la vente. Voilà, il en existe plein. Mais à chaque fois, en fait, on se pose ces questions sur le « est-ce que j'en suis vraiment capable ? Est-ce que je suis fait pour ça ?» Et ce livre-là, en rajoutant « Comment vendre quand on est introverti ou quand on est timide ?» ça m'a attiré parce que je me retrouvais un petit peu dans cette caractérisation.
Alors pour le coup, moi je bug sur l'amalgame introverti et timide. C'est pas tout à fait la même chose. Timide, c'est plutôt quelqu'un qui va pas oser parler aux autres, etc. Alors qu'introverti, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'énormément d'énergie. Ça va lui demander énormément d'efforts d'aller vers les autres. Ça ne veut pas dire qu'il est timide, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas parler aux autres, ça ne veut pas dire qu'il est associable. Ça veut juste dire que il est bien plus confortable seul sur son canapé que devant tout le monde, quoi.
Oui, effectivement, là, on a un petit mélange entre les deux. Les deux sujets sont traités, finalement, à l'intérieur du livre. Il y a cette notion d'introverti au sens où on a du mal à aller vers les autres. C'est compliqué par nature. Mais il y a aussi cette notion de timidité, de qu'est-ce que je pourrais dire à cette personne en face de moi, quoi.
Ouais, je ne sais pas comment aborder les gens.
Voilà. Donc ces deux sujets sont traités. Globalement, j'ai beaucoup aimé ce livre et je le recommande vraiment à tout le monde. Que ce soit une personne introvertie ou pas d'ailleurs, timide ou non, parce que ce qu'il y a dedans, en fait, c'est vraiment très utile pour comprendre la vente avec une prise de recul. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de voir ça comme étant un challenge face à quelqu'un, de la négociation, etc. Il a vraiment processé le processus de vente, justement, et fait en sorte de rendre ça factuel. Je recommande ce livre à quelqu'un d'introverti ou non, timide ou non, parce qu'en fait, il a rendu factuel le processus de vente.
Ce que tu es en train de dire, c'est que ce livre te délivre un processus de vente qui peut être suivi par n'importe qui, que tu sois introverti ou pas, timide ou pas.
Exactement. En fait, ce qu'il apprend, c'est que la vente, ça ne se fait pas déjà au feeling, hein, ça se prépare. Mmh. En fait, il donne vraiment un processus de vente dans ce livre en 7 étapes et derrière comment perfectionner le processus par la suite. Vraiment, c'est orienté action.
J'aime bien, je suis en train de repenser à une personne qu'on a eue en meet-up récemment. Et qui disait qu'il y avait beaucoup de travail à faire sur lui-même par rapport à la vente. Est-ce que cette personne-là trouverait les solutions ? Parce qu'elle disait qu'elle connaissait toutes les techniques, toutes les méthodes, toutes les choses type écoute active, négociation, etc., etc. Tout ça, elle disait qu'elle connaissait la technique. Est-ce que dans ce livre, elle trouvera sa réponse en fait, qui va lui permettre de déclencher quelque chose en elle-même et y aller ?
En fait, cette personne trouvera déjà un moyen de comprendre comment ça se passe. C'est-à-dire qu'on comprend que on n'arrive pas devant quelqu'un les mains dans les poches à se demander qu'est-ce qu'on va lui dire. En fait, on comprend que ça se prépare, qu'il y a un processus, qu'une discussion en fait, commence par un point A et arrive à un point d'arrivée. Et quels sont les embranchements à chaque étape pour avancer vers l'objectif de la vente. Et surtout, il précise que la vente, ce n'est pas la vente telle qu'on la pense au quotidien, c'est-à-dire ce n'est pas être vendeur de tapis. Vendre, c'est avant tout avoir un état d'esprit consultant. Et il en parle bien dans le livre. Et d'ailleurs, pour illustrer tout ça, j'ai la toute première phrase de l'avant-propos du livre. C'est écrit en gras, il y a marqué « Je déteste le réseautage ».
Super.
Le livre commence par « Je déteste le réseautage ».
Super, c'est parfaitement un truc d'introverti à dire.
Exactement. Donc c'est effectivement, ça a été une cliente de l'auteur hein, qui, en tout cas, est reconnue par Forbes comme étant la plus grande réseauteuse du monde. Et elle dit « Je déteste le réseautage ». Donc c'est pour illustrer finalement que oui, c'est pas parce qu'on aime ou on n'aime pas qu'on n'est pas capable d'eux.
Je me souviens d'une conversation qu'on a eue, d'ailleurs, pendant que tu lisais ce bouquin, et tu me disais qu'il fallait travailler des sortes de conversations, d'icebreakers, de premières conversations pour aborder les gens.
Oui, effectivement. En fait, on va pas détailler tout le processus hein, qui est dans le livre. La toute première étape du processus, c'est effectivement comment faire pour aborder quelqu'un, pour discuter avec lui. Et l'auteur explique finalement, donne des techniques sur comment être le premier à parler, faire parler quelqu'un. Et
Parler de la pluie et du beau temps?
exactement, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il faut arriver en fait avec des phrases préconçues. La pluie et le beau temps, ça peut être un très bon moyen. On peut en préparer d'autres.
Oui, mais du coup, on ne se distingue pas des autres. Enfin, même les gens qui n'ont pas réfléchi à l'avance, ils peuvent tous arriver et dire, oh, il pleut sacrément aujourd'hui. Hein.
Exactement. En fait, ce qu'il dit, c'est que il faut préparer quelque chose à la base, deux, trois, allez, quatre phrases déjà préconstruites, parce que le timide, en fait, sa difficulté à lui, c'est que justement, il n'arrivera pas à trouver les mots à improviser. Et donc, le but, c'est de créer déjà l'accroche avec des phrases déjà préconstruites qui sont déjà dans la mémoire.
Tu peux nous donner des exemples plus concrets?
Le premier exemple, c'est justement de parler de la pluie du beau temps, de dire voilà, oh là là, qu'est-ce qui fait chaud aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez, voilà. Donc en gros, être dans l'empathie.
Et quelque chose de plus original?
Quelque chose de plus original, ça va être de personnaliser le discours. C'est avant, par exemple, si vous vous apprêtez à rentrer dans une boutique pour vendre votre produit, eh ben, c'est d'observer un petit peu la boutique et de dire, par exemple, au gérant en arrivant. J'adore le nom de votre boutique, le jeu de mots que vous avez fait avec le nom de la boutique. Ou voilà, c'est d'essayer de parler d'un sujet qui est évident, qui saute aux yeux, qui peut être même, pourquoi pas, être un sujet intéressant à creuser pour vous, parce que vous avez cette curiosité-là. Et derrière, en fait, laisser interlocuteur parler. Pourquoi c'est important? C'est que la personne en face peut se poser la question de pourquoi est-ce que vous venez, etc. Et finalement, aborder un sujet qui va la faire parler, va tout de suite lui faire oublier finalement que elle a un inconnu face à elle. Lui poser une question comme ça, un petit peu personnalisée, c'est le meilleur moyen d'ouvrir la discussion.
Donc tu zappes le côté intrusif en fait d'arriver et parler directement de ton produit, de ta vente, de toi quoi.
Exactement, le but, c'est pas d'assommer la personne en étant agressif dès le début, c'est d'ouvrir une discussion, quelle qu'elle soit. Surtout que c'est aussi quelque chose qui est abordé dans le processus. La personne que vous avez en face n'est pas forcément la bonne personne à qui vous allez vendre. Ça peut être un employé, un secrétaire, une ou une secrétaire. Il faut quand même ouvrir la discussion avec cette personne, quelle qu'elle soit.
Je me souviens d'une phrase que Loubna nous a dite, c'était « Les secrétaires doivent être vos meilleurs amis
Exactement. C'est une phrase aussi qu'il y a dans ce livre. C'est que il faut discuter effectivement de la même manière avec la secrétaire que si on abordait directement le gérant. Ou le décideur, pardon.
». Du coup, s'il y avait une chose à retenir dans ce livre, ce serait quoi?
Si je devais retenir une seule chose, c'est que justement, quand on est timide ou introverti, notre faiblesse, c'est d'avoir du mal justement à savoir qu'est-ce qu'on va dire. Et donc, pour contrer cette faiblesse, c'est de préparer en amont toutes ces phrases d'accroche qui sont difficiles à sortir quand on est en live. La force, quand on est introverti et extraverti, c'est qu'en général, on prend du recul dans les discussions. Et on écoute bien. Et il faut conserver ça parce que c'est le grand pouvoir de la vente, hein, c'est d'être à l'écoute de la personne en face, c'est de creuser le besoin, c'est de s'intéresser à elle. Il faut jouer sur cette force.
Donc en fait, jouer sur ses forces ou renforcer ses forces et préparer ses faiblesses.
Exactement.
Est-ce que c'est un livre facile à lire?
Alors honnêtement, oui, il se lit très très vite, très bien. Les exemples utilisés sont très parlants. L'auteur parle en fait vraiment de son vécu. C'est assez fort. Et puis, finalement, tous les exemples donnés illustrent bien le sujet. Je dirais juste qu'il y a un point faible par rapport à ces exemples, c'est qu'ils se basent sur de la prospection en face à face, du porte à porte, chose qu'aujourd'hui, on ne fait plus vraiment. On peut avoir d'autres types de prospection. Mais il le dit très bien. Il le dit comment, en fait, adapter finalement son processus à un processus où on va faire de la prospection téléphonique ou de la prospection par email ou sur les réseaux sociaux aussi.
Ok, merci. Et donc tu le recommandes ou pas? Et à qui?
Alors oui, hein, comme je disais, évidemment, je le recommande et je le recommande à tout le monde, que la personne soit introvertie ou non, timide ou non. Évidemment, en particulier pour les personnes qui justement ne savent pas quoi faire ou quoi dire face à un prospect, le meilleur moyen de débuter. Et puis surtout, il permet de structurer finalement sa pensée lorsqu'on va préparer la vente et derrière d'être en mesure de construire soi-même son propre process avec le temps.
Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, Une vente, ça se prépare. Il y a des processus de vente, il y a des processus pour les rencontres. Et donc, ce bouquin, en fait, vous aide à mettre en place ce processus.
Exactement. Et le gros avantage du processus, c'est que vu que vous l'appliquez à chaque fois, eh ben, petit à petit, vous savez ce qu'il y a à améliorer, ce qu'il y a à changer. Si vous y allez en freestyle à chaque fois, bah, ce qui va se passer, c'est que vous aurez aucune idée de ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas.
Oui, parfois ça marche pas, on ne sait pas exactement pourquoi. Des fois, on se sent d'humeur ou en veine ou je ne sais pas quoi, et puis tout va bien se passer. Et puis il y a des jours où, juste parce qu'on n'est pas dans le bon état, etc., tous les rendez-vous vont faire un flop. Moi, je connais plusieurs personnes, j'ai déjà été aussi dans cette situation. C'est de faire un rendez-vous pour parler à un prospect, et puis parler de lui, et au final, l'heure est terminée. Il me dit je suis pressée, je dois y aller. Et en fait, à aucun moment, tu n'as eu le temps, ou je n'ai eu le temps, ou la personne a eu le temps, enfin, la personne qui essaie de vendre, n'a eu le temps de placer de regarde, voilà mon produit, est-ce que ça t'intéresse? J'en parle spécifiquement pour les gens qui vont faire du coaching, etc., ou alors de l'accompagnement, par exemple, sur les réseaux sociaux, ou des choses comme ça, où on va parler principalement de la personne, de son réseau, de sa façon d'être, de sa façon de fonctionner, de son mindset, de son business, etc., et au final, jamais vendre. Je parle pas, bien entendu, de vente de produits physiques.
Exactement, faut pas oublier les dernières étapes qui sont passer à l'action sur la vente. Et avant tout ça, ce qui est intéressant aussi avec ce livre, c'est que dans l'exemple qu'il donne sur lui-même, en fait, il explique ses débuts. Et ses débuts sont catastrophiques. Il fait plus de 90 boutiques au porte-à-porte, et sur les 90, il va en signer une seule. Et finalement, petit à petit, il progresse. Et en fait, ça permet de voir que c'est sur le nombre, hein, finalement, que ça se passe et que c'est pas grave si vous ratez votre première vente, votre deuxième, votre troisième, peut-être votre 20e. Lui, évidemment, avec ce livre, vous allez accélérer votre processus et le rendre plus en faire une réussite. Par contre, effectivement, il va falloir aussi essuyer quelques échecs et il le dit très bien.
Si tu devais critiquer quelque chose dans ce livre, ce serait quoi?
Alors, il y a deux choses que je vais critiquer dans ce livre. La première, c'est justement les exemples, comme je disais, qui sont très orientés sur son parcours ne donne peut-être pas autant de billes qu'on aimerait sur la prospection sur les réseaux sociaux, par exemple, aujourd'hui. C'est un travail à faire, hein, de pouvoir justement généraliser et comprendre qu'est-ce qui fonctionnerait ou pas sur d'autres canaux. Maintenant, c'est pas un problème en soi, hein, c'est vraiment, le livre ne facilite pas à ce point. Et le deuxième point critiquable, c'est que ça va très vite. C'est-à-dire qu'il donne ses conseils, il donne son processus. Mais au final, très vite, il faut soi-même travailler pour avancer.
Il faut passer à l'action
Oui.
soi-même.
Mais en fait, on sent, et c'est le cas pour beaucoup de livres que je lis, de livres business, on sent que c'est un livre qui ouvre, comment dire, qui est aussi un processus d'acquisition en soi. C'est-à-dire que derrière, en fait, l'auteur par ce livre va essayer de vendre sa formation, j'imagine, sans le faire réellement, hein. Mais on sent que il en garde sous le pied, il ne nous dit pas tout, et que si on voulait vraiment tout avoir, il faudrait aller payer sa formation. Et voilà, donc en gros, ça veut dire que on n'a pas tout à 100%, il va falloir travailler soi-même à côté pour y arriver.
Est-ce que tu as regardé le prix de sa formation? Est-ce que tu es allé regarder? Est-ce qu'il a réussi à te transformer? Pas tout à fait.
Alors non, il n'a pas réussi à me transformer, j'ai pas regardé le prix de sa formation. Même si c'est très intéressant, hein, parce que justement, il m'a donné envie, clairement. Je considère que pour aller plus loin, il faudrait quand même se faire coacher sur le sujet, et que c'est ça qui pourrait apporter. C'est-à-dire que lui, avec un regard d'expert, pourrait dire tout de suite là où il y a des choses à améliorer, là où il y a des choses à garder, alors que le livre nous permet de travailler sur la prise de recul sur soi-même, mais du coup, forcément, c'est un peu plus lent.
Donc le call to action du bouquin n'était pas celui que qui t'aurait transformé.
Moi, personnellement, non.
Ok.
Donc, pour conclure, je vous le recommande chaudement si vous ne l'avez pas lu. Et puis, voilà, c'est vraiment une pépite. Ça servira à tout le monde. Et c'est une base de travail. Donc, ne vous attendez pas à devenir d'un coup des super vendeurs par miracle. Il va falloir derrière travailler et appliquer ce qu'ils proposent. Du coup, à ton tour, est-ce que tu peux me parler du livre que tu as lu cette fois-ci?
Alors moi j'ai lu le best-seller qui a amené des millions de personnes vers le succès. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le livre. Alors pour la petite histoire, en fait c'est un bouquin. J'ai l'impression que tout le monde me le recommande, tout le monde m'en parle. Souvent, quand je pose la question, c'est quoi les bouquins qui t'ont marqué, etc., tout le monde me parle de celui-là. J'ai fini par l'acheter, j'ai fini par le lire, parce que Fear of Missing Out, hein, FOMO, je veux pas être la seule à ne pas l'avoir lu, donc je l'ai lu. Et comment te dire, je suis à 99% déçue.
Oula, donc...
j'ai complètement perdu mon temps.
Tu parles d'un classique
tout
que
à fait.
Tout le monde recommande et toi, ouais. Finalement, tu trouves ça décevant.
Ouais, en fait, j'ai vécu l'expérience comme les quatre accords Toltec. En fait, j'avais été déçue suite à ce livre-là. Bah, là, j'ai revécu la même chose. Je le trouve lourd à lire, je le trouve lent à lire, je le trouve désagréable. Et du coup, j'ai rien appris.
Attends, avant de poursuivre cette vidéo, je tiens à te parler d'une opportunité pour les entrepreneurs ambitieux.
Découvre le parcours du dirigeant. Bien plus qu'une simple formation en ligne, c'est un tremplin pour développer tes compétences entrepreneuriales et accélérer le succès de ton business.
Ce qui nous distingue, nous te fournissons des méthodes éprouvées et des outils concrets pour accélérer ta réussite et pour optimiser ton efficacité.
Et surtout, une communauté d'entrepreneurs passionnés prêts à relever le défi. Si tu veux transformer ta vie d'entrepreneur, il n'y a qu'un pas à faire,
rejoindre le parcours du dirigeant.
Va sur cette page et commence dès aujourd'hui ton voyage vers le succès avec nous.
Bien, alors, est-ce que déjà tu peux redonner le contexte de ce livre? Parce que s'il est si connu, c'est qu'il est quand même daté.
Oui, tout à fait. Alors, je rouvre le bouquin pour ne pas dire de bêtises. En fait, Napoléon Hill est né en 1883. Je ne sais plus exactement, mais ouais, c'est ça. Alors, il dit sa première version du philosophie de réussite, il a sorti en 1928.
Ok.
Donc, en fait, le bouquin a plus de 100 ans, quoi.
Ok, bah du coup, en fait, c'est un livre qui est à peu près dans la même époque que le livre qu'on vous a présenté la dernière fois dans le premier épisode, qui était « Comment se faire des amis » de
Dale Carnegie.
Et forcément, en fait, c'est un livre qui, du coup, est dans son contexte. Moi, ce que j'avais remarqué avec des livres de ce type-là, c'est que la nature humaine ne change pas. En revanche, les mœurs évoluent. C'est des livres qui peuvent aborder des sujets où la société a bien évolué depuis. Bon. On va faire comme d'habitude, avant de parler de ce qui t'a déplu. Est-ce que tu as appris quelque chose dans ce livre?
Je suis désolée, j'ai pas du tout cette question en fait, parce que en vrai, j'ai rien appris.
Bah, donc tu dis que tu n'as rien appris, mais comment ça se fait que tu n'as rien appris avec ce livre?
Comment te dire? En fait, j'ai beaucoup lu de livres de développement personnel, de choses sur le coaching. Je suis formée aussi au coaching. Donc... en fait, tout ce qu'il y a dans ce bouquin, j'ai l'impression de l'avoir lu ailleurs et de façon bien plus moderne et de façon bien plus conviviale et oui, qui colle à l'air du temps, en fait. Il y a plein de notions qu'on peut retrouver dans des bouquins de Tony Robbins, de... alors, je sais plus le livre là avec le papillon pour les coachs. Il y a dans la formation de coaching. Enfin, il y a plein de notions qu'il y a partout aujourd'hui qui peut-être étaient nouvelles à l'époque où ce bouquin a été écrit. Mais aujourd'hui, si on s'intéresse un tout petit peu au développement personnel, en fait, toutes les notions qui sont là-dedans sont déjà ailleurs. Et en vrai, si tu veux un résumé du livre, tu lis les titres des chapitres.
D'accord. Tu nous dis que finalement, tout ce qu'il a écrit, il était pionnier à l'époque, mais que depuis, tout le monde a repris finalement ce qu'il a dit.
Exactement. Tout le monde a repris ce qu'il a dit. C'est cité, expliqué, bien mieux. Ici, les exemples, en fait, aujourd'hui, même les exemples, en fait, je ne m'y reconnais pas. On me parle de Graham Bell, on me parle d'anciens présidents américains qui étaient là avant même que je naisse, de Edison, on nous parle de Ford, enfin, voilà. Moi, j'aurais préféré qu'on me parle d'Elon Musk, de Bill Gates. Et c'est ça que font les autres, en fait, c'est quand ils reprennent ces idées, ils les expliquent avec trucs modernes, avec des exemples modernes.
Ok. Bon, il y a quand même au moins une chose à retenir sur ce livre? Non.
Non, si vous lisez du développement personnel, je sais pas quoi vous dire de retenir. Est-ce que j'ai surligné quelque chose? Non, j'ai absolument rien surligné dans tout le bouquin. Du coup, un truc à retenir, comme je disais, pas grand-chose. Mais par contre, il y a un chapitre qui m'a marqué, qui m'a fait marrer, qui m'a irrité, qui m'a énervé. C'est le chapitre 11, 10e étape vers la richesse, le mystère de la transmutation sexuelle. Comment vous dire, il y a des phrases du genre chaque homme qui réussit, enfin derrière chaque homme qui réussit, il y a une femme, qu'en gros la femme elle est là pour faire briller l'homme. Avoir des rapports va générer du génie chez les hommes. Je suis désolée, mais aujourd'hui, en fait, en termes de génie, il y a plein de gars sur Tinder qui ont des rapports tous les jours, plusieurs fois par jour. On ne peut pas parler de génie hein, dans leur cas. Pour moi même, c'est une phrase prise à l'envers, parce que est-ce que c'est le rapport, il n'est pas plutôt à est-ce que la relation, elle n'est pas plutôt à l'inverse? C'est les hommes riches qui ont potentiellement plus d'opportunités d'avoir des rapports que l'inverse, en fait, de dire que c'est les rapports qui rendent les hommes plus intelligents, plus des génies, et du coup qui deviennent riches. Enfin, ça ça m'irrite comme notion.
Effectivement, je me souviens que tu m'as parlé de un ou deux chapitres en le disant, qui m'ont fait rire aussi, parce que c'est dingue à quel point c'est d'une autre époque, basé sur des idées reçues, sur quelque chose qui n'est absolument pas scientifique. Et quand il essaye de prouver scientifiquement quelque chose, il se trompe gravement, il fait des biais statistiques où il confond causalité et corrélation. C'est très limite.
Bah, en première lecture, vraiment, ce chapitre-là est irritant. En deuxième lecture, c'est limite un appel au viol, en fait. Enfin... Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai lu. Je veux bien entendre vos avis, hein, si vous avez adoré ce bouquin, parce que je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs qui adorent ce bouquin, qui l'ont comme livre de chevet. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu autrement ce chapitre-là, parce que moi, ce chapitre, il n'est pas passé. Hein.
Alors, il y a beaucoup de gens qui pourraient te dire, tu as cité les accords Toltec, il y a beaucoup de gens qui pourraient te dire bah, qu'avec ce genre de livre, ce qui est important, c'est d'en retirer la moelle et de prendre du recul par rapport justement au contexte de l'époque et d'essayer d'aller chercher finalement... Qu'est-ce qu'on peut apprendre? C'est un petit peu comme l'art de la guerre. Ça a été écrit il y a plusieurs millénaires. et finalement, ben, on va quand même essayer de chercher derrière les phrases et derrière les mots quels sont les enseignements qu'on peut en tirer aujourd'hui.
Ouais, sauf que en fait, moi, on me l'a vendu comme le livre de chevet indispensable qui va m'apporter, je sais pas quoi, la réflexion, le mindset et compagnie. En fait, tous les entrepreneurs ont « build up my expectations ». En fait, mes attentes étaient élevées, étaient énormément élevées, et je m'attendais à apprendre quelque chose à toutes les lignes, au moins à tous les chapitres. Or là, franchement, je me serais contentée de lire les titres. Une fois qu'on a les titres, en fait, il n'y a pas besoin de lire le contenu du bouquin qui est relativement perché, en tout cas à mon goût.
On en reparlera peut-être de ce livre dans un futur épisode. Bon, est-ce que c'est un livre facile à lire, malgré tout ?
Non, je l'ai lu en plusieurs fois, sachant que le livre, il est tout petit, il fait 200 pages. Je l'ai lu en énormément de fois. Enfin, normalement, ce genre de format-là, ça me prend 2-3 heures, quoi.
Et pourquoi ?
Je sais pas, il a pas réussi à m'embarquer dans une histoire, dans un storytelling, il a pas réussi. Enfin, si j'avais eu des apprentissages, justement, si j'y connaissais rien en développement personnel, bah, peut-être que j'aurais appris des choses à chaque chapitre et... J'aurais été dans cet engouement d'apprendre. Mais là, j'y étais pas du tout, en fait. J'avais l'impression de lire des choses que je savais, écrites de façon vieillotte, enfin...
Bah, j'ai l'impression que quand tu lisais, tu me disais que c'était un peu une liste d'exemples sans vraiment avoir un storytelling autour.
Ouais. Il y a des chapitres, en fait, où justement, il va dire comme machin a fait avec, et puis voilà, il balaye ça d'un revers de main, en mode, c'est des évidences. Alors, c'était peut-être des évidences à l'époque, parce que c'était partout dans les journaux. Bah, aujourd'hui, ça l'est pas.
Donc, tu dis que ça manque d'analyse.
Bah oui, c'est ça.
Ok.
C'est peut-être que c'était des choses d'actualité à l'époque, et ça faisait que bah, toute personne qui le lisait avait tous ces exemples en tête. Aujourd'hui, les exemples, on ne les a pas forcément en tête. Les situations exactes, on ne les a pas en tête. Je ne l'ai pas lu hier dans le journal. Et donc, voilà.
Ok, très bien. Je comprends du coup la complexité de la lecture. Et puis, de toute façon, quand on n'est pas embarqué dans un livre, hein, ça reste difficile.
En fait, la moelle du bouquin peut être intéressante, mais ça nécessite aujourd'hui que quelqu'un repasse dessus et le réécrive.
D'accord. Bah, du coup, tel qu'il est aujourd'hui, j'en profite pour te poser la question. À qui tu le recommanderais aujourd'hui ?
Quelqu'un qui adore lire des livres très compliqués et puis se donner l'air très intelligent parce qu'il lit des grands mots. Aujourd'hui, en fait, ça dépend. En fait, si ce que tu cherches, c'est de l'information, des choses actionnables dans ton business, dans ta vie, dans ton processus d'investissement, etc., il y a mieux que ça. Si tu cherches à connaître des classiques et avoir lu Napoléon Hill pour ajouter ça à ta culture générale, tu peux.
Ok, donc ça reste un classique, Pour comprendre la genèse peut-être du développement personnel, ça peut être intéressant de savoir que ça existe et de le lire. Comme on disait, il a beaucoup de citations qui sont reconnues et qui sont reprises d'ailleurs dans des livres plus récents de développement personnel.
Oui, Kiyosaki, dont je parlais la dernière fois, il reprend des citations de Napoléon. Voilà. Il y a plein d'idées qui sont dans les bouquins de Kiyosaki qui ont certainement trouvé leur racine ici.
Ok.
Mais pour Kiyosaki culture, est bien plus facile à lire. Tu fais deux fois plus de pages. Moi, en tout cas, je le lis deux fois plus vite.
Donc finalement, pour la culture générale, ceux qui veulent aller là-dedans, ça peut les intéresser. Tu disais que toi, tu es déjà bercé là-dedans dans le développement personnel. Tu as lu déjà beaucoup de livres. Quelqu'un qui n'en aurait lu aucun, est-ce que tu le recommanderais ?
S'il veut se dégoûter du développement personnel, peut-être. Non, en vrai, je recommanderais autre chose. J'ai tellement d'autres livres qui sont bien plus sympas, plus faciles à aborder. Et puis, une fois qu'on est vraiment tombé dedans, là, peut-être se renseigner. Ouais, non. Faites l'impasse. Je sens que je vais me faire plein d'ennemis avec cette vidéo.
Bon, je pense que c'est important quand même que tu donnes ton ressenti. Tout le monde ne peut pas aimer tous les livres. Et puis peut-être que, notamment sur le chapitre dont tu as parlé tout à l'heure, c'est un livre qui a été écrit à destination des hommes. Et donc peut-être aussi que toi, en tant que femme, tu as eu plus de mal à accepter ce qu'il y a dedans.
Oui, il a clairement été écrit pour les hommes, à une époque d'hommes, avec des exemples avec que des hommes. Et oui, clairement, je ne suis pas la cible.
Ok. Bon, on a parlé... On a essayé d'aller trouver quelque chose de bien. Est-ce que maintenant, il y a quelque chose de critiquable dans ce livre ? On ne va pas en rajouter. En fait, oui, évidemment, on a compris en fait, ce qui n'allait pas avec ce livre. Est-ce que tu peux résumer du coup ce qui ne va pas pour toi ?
Alors, ce qui ne va pas pour moi, c'est que la façon d'écrire est datée. Les exemples sont datés, pas assez illustrés, pas assez storytellés. Et que quand on s'intéresse un minimum au développement personnel, en fait, toutes les notions qui sont dedans ont été reprises partout dans tous les livres. Donc, pour peu que vous ayez lu 2-3 livres de développement personnel, en fait, tout ce qu'il y a là-dedans, même que vous suiviez un compte Instagram qui fait des citations de développement personnel, mais en fait, tout le contenu, vous l'avez déjà vu. Ce gars-là, c'est le papa, on va dire, de toutes les idées du développement personnel. Sauf qu'aujourd'hui, son livre Racine est aujourd'hui devenu difficile à lire. Alors qu'il y a d'autres reprises qui sont bien plus faciles.
Et en plus, tu disais qu'il suffisait de lire les titres des chapitres pour avoir le contenu.
Il y a les titres des chapitres qui donnent le contenu. Après, il y a un truc quand même que... Si, il faut quand même applaudir ce livre pour une chose.
Les résumés.
À la fin de chaque chapitre, en fait, tu as un petit résumé d'une demi-page.
Ouais.
Donc en fait, il suffit de lire le titre et le petit résumé à la fin de chaque chapitre. Et en fait, tu as lu tout le livre.
C'est un peu comme le livre Power. Il y a la version... complète qui est énorme et il y a la version raccourcie qui est finalement un résumé de chaque idée.
Chacune des lois, ouais.
Voilà.
Les 48 lois du pouvoir.
Voilà, les 48 lois du pouvoir. Et là, c'est comme si on en faisait un autre de livre de Napoléon Hill avec que les résumés et ses 14 ou 15 chapitres.
Oui, tu peux le résumer dans un article de blog, quoi.
Et voilà, ok.
Je peux donner quand même un petit point positif ?
Ah bah oui, je t'ai posé tout à l'heure la question si on avait un, donc vas-y.
En fait, il y a des punchlines, il y a beaucoup de citations dans ce livre. Et justement, en fait, c'est toutes les citations méga connues de Napoléon Hill, je pense qu'elles viennent toutes.
D'accord. Donc effectivement,
donc, il y a quelques phrases bien tournées dans chaque chapitre.
Il a une façon d'écrire qui est là pour... justement pour secouer le lecteur, pour qu'il se souvienne de certaines choses.
Non, pas secouer. Non, c'est juste des punchlines. Je pense qu'il a dû faire ça pour être cité partout. Non, je ne sais pas si c'était la façon d'écrire de l'époque, j'en sais rien. Mais...
Si c'est l'objectif, c'est une réussite en tout cas.
Ouais.
Et ma conclusion, c'est est-ce qu'en ayant lu ce livre, tu vas réussir à devenir riche du coup ?
Est-ce que je deviendrai riche grâce à ce livre ? Aujourd'hui, dans ma to-do list, il n'y a rien qui a été rajouté grâce à ce bouquin. Si on passe pas à l'action, on risque pas de devenir riche. Or, vu qu'il m'a pas rajouté de nouvelles actions dans ma to-do list, je suis pas sûre.
Bon, on va conclure ici du coup. Pour rappel, aujourd'hui on parlait de comment vendre quand on est introverti, traité pratique à l'usage des timides de Matthew Pollard et Derek Lewis.
Et réfléchissez et devenez riche.
Lui, on vous le recommande chaudement de ce que j'ai compris. Il aura plus d'impact sur vous pour devenir riche que le livre de Napoléon Hill.
Tout à fait, exactement. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis si vous voulez qu'on parle d'un livre en particulier, n'hésitez pas aussi à nous le recommander.
Voilà. Et moi, je pense que je lirai le livre de Napoléon Hill. Comme ça, je ferai peut-être une contre... Non, je rigole.
Mais tu m'écoutes pas du tout, quoi.